m'agace. Si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, le gout de Morie binant der ir la evi radio zu her, viket stani de Morie, ole sempoutor, nous revoilou. Moi, dans le poste radio, je vous envoie des ondes positives, énergétiques, pour passer un bon moment entre nous ce matin. Heureux de vous raconter une tranche de vie de mes prestigieux invités, nous sommes bien assis sur le rebord du monde et tout va bien. Au Nid Morie, j'ai fait une place à un inventeur, un ébéniste d'art au Goldfinger, meilleur ouvrier de France à 25 ans, vous vous rendez compte. Un géo trouve tout, en plus il a le look coco, coiffure hirsute semée d'argent, grand homme, de taille et de talent. C'est Eric Wasser, l'inventeur de ce diamant qui fait des clins d'œil à notre soleil. Salut Eric de Koswiller, wie geht's?
Gute Morgen.
Tu vas bien?
Tout va bien.
Ben, je suis heureux de partager ce petit moment avec toi. Ça me fait plaisir de t'accueillir à Radio Judaïka. Écoute, comment ça gazouille sur ta planète Terre, Eric?
Oh, moi, je dirais qu'à Koswiller, on a des oiseaux, on a des poules, on a des animaux dans les prés. On est un petit peu, pour nous, à la campagne.
Tu veux dire que tu es un homme heureux à Koswiller?
Moi, je dirais qu'effectivement, il fait bon vivre.
Et c'est où, Koswiller, entre où et où?
Oh, c'est au bout du monde, hein. C'est un village qui mène nulle part. Donc, on y va ou on n'y va pas. Et derrière nous, bah, en fait, il y a la forêt, une forêt très large. Mais, donc, on a la longueur de la forêt des Vosges. Mais nous, derrière nous, elle est très large. Et on n'est qu'à une demi-heure de Strasbourg.
Et c'est en fait une forêt de quoi? De pins, de chênerais, des érables? Il y a quoi là-bas?
C'est surtout une forêt de chênes, de hêtres. Plus loin, plus au fond, il y a bien sûr un peu de sapin, mais ouais, ça fait partie de cette grande forêt qui... En fait, c'est une forêt qui appartient, c'est là où c'est fantastique, ça appartient à la ville de Strasbourg.
Ah oui, c'est ça.
C'est historiquement, Koswiller a fait partie de l'histoire de la ville libre.
Ah oui, d'accord.
La ville libre de Strasbourg avait des petites choses à l'extérieur, et donc nos forêts, en fait, font partie de ces forêts qui font partie des forêts de la ville de Strasbourg et de l'œuvre Notre-Dame.
D'accord. Et donc, Koswiller, c'est un grand village, c'est un petit village, c'est des maisons à colombage. Comment c'est là-bas?
C'est un petit village. Disons, quand j'étais jeune, on était 300. Aujourd'hui, on est bientôt 700. Donc,
c'est pas beaucoup plus. Hein.
Ou si, quand même. Si. Hein, pour nous, c'est énorme.
Ah ouais.
Pour nous, c'est énorme.
Vous avez doublé. Ouais, et alors aussi, là-bas, on, je crois que ça ressemble à la petite Suisse. C'est vrai, on dit ça, que c'est la petite Suisse?
En fait, si on veut, ça a toujours été appelé la petite Suisse d'Alsace. Hein. On avait cette dénomination, et puis voilà. Et puis quelque part, l'histoire même du village, c'est des Suisses qui sont arrivés, quoi.
C'est comme un peu partout, comme au Ovald et comme ailleurs, hein. C'est aussi qui ont déboisé.
Oui, qui sont revenus après la guerre de 30 ans, quoi, pour repeupler, alors qu'il n'y avait plus personne.
Exactement. Et alors, j'ai aussi entendu, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime observer les cieux, le ciel, j'ai entendu qu'on y voit des étoiles filantes et la Milchstraus à Koswiller.
Bah, pendant longtemps, on a été un petit peu un coin assez sombre. Donc, sombre, ça veut dire que déjà, on illuminait très peu le village et qu'autour du fait des forêts, on avait effectivement un ciel nocturne de très grande qualité.
Parce qu'il n'y avait pas de lumière parasite, tu veux dire? Il n'y avait pas de candélabres dans ce village?
Il y en avait peu, et maintenant, en fait, on a encore fait mieux. Maintenant, on les éteint carrément la nuit.
Ah ben ça, c'est pour faire des économies, non?
Disons que c'est là où les deux se sont rejoints. Au départ, c'était des passionnés qui se battaient parce qu'ils voulaient avoir un ciel de plus en plus belle qualité pour voir les étoiles.
Ben, c'est une bonne chose.
Et après, effectivement, ben, le bon sens, les deux se sont rejoints. Et là, on est vraiment content de voir que la nuit, ben, voilà.
Et on ne se perd pas dans le village quand il n'y a pas d'éclairage?
Mais non, c'est justement l'inverse, parce que moins on a d'éclairage, mieux on voit.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors, parle-moi aussi de tes aïeux. Ils viennent tous de Koswiller? Tu as fait ce qui paraît l'arbre généalogique?
Ben, en fait, c'est là où c'est complètement incroyable, quoi, de se dire qu'ils sont arrivés en 1680 et puis sans marier.
Tes aïeux?
Ouais.
Ah ouais?
Et puis, ils se sont mariés entre eux. Et donc, tout mon arbre généalogique est au village.
Ils ont toujours vécu depuis, ouais. De quelle date à quelle date de...
Ben, depuis 1680.
1680
ouais. Wow. Et puis, ils se sont mariés entre eux et tout l'arbre généalogique était au village.
Et tu... Ah, génial. Et t'as jamais quitté, toi non plus, t'as jamais quitté ce village.
Ben non. Ah non, pourquoi? On y est bien.
Ben oui, je sais bien. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, tes aïeux? Qu'est-ce qu'ils ont travaillé? C'était des hommes de la terre?
Ben en fait, oui, c'était des hommes de la terre. Et puis, ils ont tous toujours un petit peu, plus ou moins, travaillé dans le bois. Toujours un petit peu, historiquement. Mais bon, à l'époque, le travail du bois, ça accompagnait le reste, quoi. Donc, ouais. J'ai un grand-père qui était tonnelier. Et après, bon, mon père est devenu plutôt ébéniste. Et donc, mais disons, quelque part, tout ça, c'est resté lié à la ferme familiale.
Et toi aussi, on en reparlera un peu plus tard. Tu es aussi devenu quelqu'un qui travaille le bois. On en reparlera un peu plus tard. Écoute, Eric, je sais aussi que l'Alsacien, Fließt in den Adern, tu as l'Alsacien au bout des doigts et dans ton cœur. On va juste écouter une première musique avec Roger Siffert. Vas-y voir Thomas, mets-nous cette belle petite musiquette et on en reparlera après.
Vilret, vilra, mora, mit de longa ora, mit de gale lader schüet je ran o li zim teifel zu, de seppele wit de wiesa, de seppele wit de goss, de seppele hüt de tosse geschüsse, seppele wos e stoss. Andreas, mi bete schnoss, ma rätz gemacht, der Andreas, o li si, pot i si, korleffel, kukus, kukus, ata, e ori, konori, et pompos,
C'est extraordinaire de Roger Siffert. Hein.
Ah oui,
Gougou Sadr, Gougou Salé, Gougou Sadr. Dis-moi, Eric, tu parles souvent l'alsacien encore?
En fait, les anciens du village, on ne parle qu'alsacien. Moi-même, avec mes parents, je n'ai jamais parlé français. Le français, c'est une langue qu'on a appris à l'école.
Ouais,
on a été puni pour ne plus parler de l'alsacien.
Oui, on allait au piquet, hein, parce qu'on parle le dialecte, je m'en souviens.
On en a fait des pages et des pages, je ne parle pas l'alsacien.
Je me souviens de ça, le silence est d'or, il fallait marquer quand on parlait le dialecte. mais en fait, c'est quelque chose, la langue alsacienne, tu l'utilises tout le temps.
En fait, je l'utilise, comme dit, avec les anciens du village. Autrement, c'est quand même une langue qui se perd très vite en ce moment.
Tu penses, toi, que ça se
perd? Moi, j'ai peur que les jeunes, du fait qu'il n'y a plus aucune incitation... Et le problème, en fait, c'est comme, je dirais, quand on va dans un congrès international, on se retrouve tous à parler anglais. Et donc, nous, au niveau national, on se fait avoir, quoi, avec nos petits dialectes.
Oui, mais chaque région a gardé son dialecte, son authenticité, non?
Ça,
tu crois pas?
Pour moi,
ce serait dommage de le perdre.
Ben, c'est sûr que ce serait dommage de le perdre.
Moi, quand je vais de temps en temps faire mes courses, la Robertso ou autre, avec mon petit panier en osier, j'entends quand même de plus en plus parler le dialecte avec les bobos, quoi. Tu vois, j'espère que ça ne va pas se perdre.
Ah ben, moi, j'espère. Ouais, j'espère. Ouais. Ah oui, bien sûr. Mais je dirais, moi, dans mon petit village, je ne vois pas vraiment... De ce côté-là, je fais un peu,
ouais. Et quand tu construis des choses, tu réfléchis en alsacien quand tu fais des meubles ou autre, tu réfléchis en alsacien?
Souvent,
souvent. Et dis-moi, je peux te poser cette question, tu étais un bon élève en primaire ou au collège, ou travailleur ou plutôt rêveur?
Non, moi, je n'aimais pas l'école. Moi, j'avais envie de faire, quoi. Moi, j'étais heureux quand j'étais dehors, quand j'étais dans un atelier. Moi, je n'arrivais pas à rester assis. J'étais un hyperactif, donc c'était très difficile pour moi, tout ce qui dépassait un certain temps...
Ouais, je crois qu'on a été tous un peu... Mais c'est bien d'être cancre. Moi aussi, j'étais un cancre. Je trouve ça génial. Je trouve ça extraordinaire. Moi, mon prof me dit, l'école primaire, il disait souvent, André, si tu continues comme ça, tu seras dirigeur de vent sur Mars. Je trouve ça extraordinaire. Et en fait, tu vois, c'est peut-être ça qui m'a donné envie de devenir... Cette phrase m'a peut-être donné envie de devenir journaliste, tu vois, plus tard.
Voilà.
Ouais. Et alors, tu as fait... Bon, je sais que l'école, c'était pas trop ton truc, mais après, tu as quand même fait des études d'histoire d'art, tu es devenu... Béniste, tu as fait les écoles quand même pour apprendre les ficelles du bois, quoi.
En fait, je dirais que j'ai eu la chance d'avoir un très bon prof d'histoire de l'art qui m'a vraiment passionné, quoi. Et c'est cette histoire-là qui a continué toujours et toujours de me dire tout est dans ton passé, mais écris ton histoire. Écris l'aujourd'hui, quoi. Mais toutes les connaissances, tout est là, quoi. Mais il suffit de comprendre, parce que quelque part, tous ces messages qui sont devant nous, toutes ces belles choses, en fait, il faut qu'on les réécrive. Et c'est comme ça que j'ai fait en faisant du design de meubles. C'est comme ça que je suis arrivé à faire ma maison, quoi. Parce que
tu en fait pour revenir un petit peu après, on en reparlera de cette belle maison que tu as inventée. Tu as d'abord été chez Mittelbergheim. Tu étais designer chez Sels où tu as fait ces beaux meubles en bois.
Oui, j'ai travaillé pour plein d'entreprises. Mais je dirais pour Sels, ça a été mon plus gros client. Pour lequel j'ai fait pendant 20 ans les nouvelles gammes de meubles. Pratiquement tous les ans, on créait une nouvelle gamme de meubles, ou alors on agrandissait la gamme, on l'enrichissait. Mais du moins, tous les ans, on créait des nouveaux objets, des nouvelles belles pièces. Et donc pendant 20 ans, j'ai eu la chance, effectivement, dans cette entreprise régionale qui faisait, des meubles merveilleux en bois massif, et donc de pouvoir dessiner, si on veut, des choses fantastiques. Au niveau du design, mais aussi au niveau de... On travaillait des bois fantastiques, on les traitait de façon naturelle.
Qu'est-ce qui a anéanti cette maison Sels? Pourquoi ça a disparu? C'est Ikea qui les a mangés?
Et on voit bien que le marché du meuble est devenu, en fait, a presque disparu. Donc il restait en très très haut de gamme, mais qui demandait... disons, des choses beaucoup, tout à fait différentes, quoi. En disant, quelque part, un marché mondial aurait peut-être pu couvrir les besoins d'une entreprise de cette taille. Autrement, le marché, on n'a plus de marché de meubles aujourd'hui. Malheureusement, le pouvoir d'achat ne nous permet plus. Il faut voir le prix. Une belle chaise valait 600 euros.
Waouh, c'est cher quand même. Ouais, c'est quand tu vas à côté, là, au marché gare, t'achètes une chaise, t'en as pour 40 euros, quoi, que tu montes toi-même. Et que, tu vois, c'est ce qui a fait quand même que les jeunes, maintenant, le mobilier change. Ils ne veulent plus un truc qui dure, quoi. Au bout de 3-4 ans, ils en ont marre, ils changent et ils achètent autre chose. Tu crois
pas ? Non, moi, je pense que les belles choses resteront les belles choses. Mais qu'on est passé dans une période où, effectivement, on va vivre autrement. Et où on va mettre d'autres valeurs en place, et les choses changent, les époques changent, et puis,
oui,
et puis voilà.
Mais travailler comme toi, travailler le bois, c'est quelque chose de noble. Je trouve que il faut avoir une certaine intelligence du cœur et au bout des doigts aussi pour faire ce que tu as fait. C'est extraordinaire, je trouve. Ton parcours, meilleur ouvrier de France à 25 ans, c'est extra. Non, mais franchement, j'ai beaucoup de respect par rapport à ça, quoi.
Mais je dirais que le bois, c'est quelque chose de précieux en soi.
De vivant.
De vivant et de beau. Et donc, de l'utiliser au mieux, d'en faire quelque chose de fantastique, c'est tout ce respect par rapport à des arbres qui mettent des fois des centaines d'années à pousser. Donc, moi, je dirais que si aujourd'hui, les beaux arbres ne sont pas moins utilisés, qu'ils ont le droit de pousser un peu, il arrivera un moment où on aura de nouveau envie de belles choses.
Ils ne poussent pas si longtemps que ça, quand même. Hein. Je pense que les guillotineurs viennent quand même les couper, les bûcherons et les anéantir. C'est quand même triste de voir un arbre qui tombe, non?
Oui, mais disons qu'aujourd'hui, on a effectivement d'un côté une surexploitation de la forêt, et d'un autre côté, on a des très belles pièces qu'on ne coupe pas parce que le marché n'est pas là. Donc...
Tu parles de quoi? Des chênes?
Oui, ou de beaux arbres qui sont là, qui sont centenaires et qu'on va laisser tranquilles. Parce que, par exemple, même dans les forêts, aujourd'hui, le forestier a la capacité de mettre un signe sur un arbre. Et c'est à partir de ce moment-là, l'arbre est préservé pour l'instant, pour une durée indéterminée. Donc, moi, je dirais qu'effectivement, on surexploite quelque part. Et d'un autre côté, il y a aussi une prise de conscience pour que des belles chaises, belles choses restent. Ouais. Quoi.
Tu penses que c'est un peu la philosophie de l'ONF, ce que tu me racontes là? Eux, c'est plutôt des gens qui exploitent la forêt, qui coupent les allumettes pour les vendre, quoi.
Non, mais dans l'ONF, on a effectivement à boire et à manger. Aujourd'hui, on est même un peu en train de détruire cette belle ONF. Ouais. Mais quelque part, je dirais qu'il y a des forestiers qui, certains n'ont qu'une envie, et certains font ce qu'il faut. Ouais. Mais effectivement, il y a cette grosse industrie qui pousse derrière, et qui pousse et qui essaye de perdre ce respect par rapport au cycle, par rapport au rythme, par rapport à plein de choses. Mais il y a une conscience. Quand même.
Oui, c'est vrai. Tu as... et en parlant du bois que tu aimes, quel est le bois que tu aimes travailler? Quelle est l'essence de bois préférée? C'est le chêne, c'est le poirier.
Enfin, moi, ça a été d'abord le noyer. Et après, bien sûr, quand on a été, quand on a eu plus de grands besoins, on a travaillé des bois comme le chêne, le hêtre, qu'on a en plus grande quantité. Ouais. Après, on a des merveilleux cerisiers, on a du poirier, on a des très beaux bois, on a de l'érable, on a plein de belles choses.
Éric, c'est très sympa ce qu'on raconte. On va juste un peu se faire reposer les oreilles et on écoute une musique, un bruitage que tu m'as demandé, des onomatopées, c'est dur à dire. Vas-y Thomas, mets-nous une petite musiquette là pour... Vas-y, Genèse pour musique, c'est quoi comme musique que tu aimes?
Écoute, c'est quelqu'un que j'adore parce que j'ai appris à le connaître et vraiment, lui au moins, il s'amuse. Lui au moins, il exprime notre époque.
On en a la
il
n'a
pas besoin d'informatique, il fait ça et il vit son époque et il exprime, moi je dirais, tout d'un coup, une prise de conscience. Mais pour moi, c'est une musique mondiale, quoi.
C'est du yodel,
c'est toute l'histoire, quoi. Ouais. C'est justement moi cette histoire où je me raccroche toujours au passé. Et lui, il est là-dedans, quoi. Mais alors, il l'exprime, c'est trop génial, c'est quoi.
Il est suisse, Storpexen.
Oui, il est suisse, il habite à Basel.
À Basel, là, c'est juste à côté.
Mais oui, c'est pas loin, quoi.
Tu le connais personnellement?
Oui, bien sûr.
Et il a déjà vu tes œuvres, tout ce
que il a même fait de la musique pour Loloïd, il a fait plein de belles choses.
Oui, mais on va en parler de ta belle maison. Je sais que la maison, ce héliodôme que tu as construit, tu y fais des concerts parce qu'il y a une sonorité particulière dans cette maison.
Oui, effectivement, on a une très belle acoustique dans l'héliodôme. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a organisé des concerts. Disons, pendant 10 ans, on a fait 1 à 3 concerts par mois, quoi. Donc là, depuis qu'on a eu la période de confinement, on a dû arrêter. Mais peut-être bien qu'un jour, on pourra s'y remettre.
Je sais que t'as en bas, t'as un piano à queue, là. Oui, on a déjà fait des concerts. J'ai déjà été à des concerts. On va juste en parler un petit peu de ce rêve d'adolescent qui est devenu une réalité. Tu l'as rêvé et tu l'as fait, cet héliodôme. Raconte-moi, c'est quoi ce diamant qui est posé sur la terre et qui joue à cache-cache avec le soleil? Raconte-moi ça.
Ben, en fait, c'est l'histoire que, quelque part, le rythme du temps, le rythme de l'année, en fait, il est l'expression des trajectoires du soleil. Et c'est cette vieille histoire que déjà les pierres mégalithiques, toutes les anciennes civilisations...
Les pharaons, tu veux dire, tout ça?
Mais tous ces grands bâtiments, ils sont tous orientés, rythmés... Et tout est en fait lié à cette histoire de rythme, de temps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ça? Les Grecs, ils ont orienté des villes entières.
Vers le soleil, tu veux dire?
Ils ont rythmé, tous les bâtiments, tous sont orientés, rythmés. Tout. Alors, quelque part, on se dit, oui, d'accord, c'est pas mal tout ça, mais moi, j'avais une phobie. Je me suis dit, moi, je veux sculpter avec les trajectoires du soleil. On me dit, on est à l'ère de la 3D, moi la 3D virtuelle, ouais d'accord, mais bon, pour moi c'est pas de la vraie 3D. Moi j'avais envie de faire de la vraie 3D. Donc
raconte-moi, c'est comment un héliodôme, c'est une soucoupe volante?
Au départ,
c'est quoi un héliodôme, que les gens comprennent à la radio ce que
mais,
c'est.
Mais au départ, t'es là et tu te dis, mais c'est quoi les trajectoires du soleil?
Ouais.
Et donc la trajectoire du soleil, quand il est haut en été, il fait une courbe. Une certaine courbe en se levant au nord-est, il monte très haut dans le ciel et il va au nord-ouest. En fait, quand tu traces cette courbe-là, eh ben, c'est la courbe qui va donner la forme à la façade du bâtiment.
Ah.
Et en fait, pour passer de l'autre côté, ce qui veut dire en hiver, Là, maintenant, les journées sont courtes, le soleil est bas, et il fait une petite courbe très basse dans le ciel. Et bien, cette courbe basse, c'est le toit du volume du bâtiment. Et si on lit, quand on lit les deux, donc l'été et l'hiver, on a en fait une ligne droite qui fait la jonction entre les deux courbes. Et cette ligne droite, c'est une parallèle à l'équateur. Et cette parallèle à l'équateur, c'est la trajectoire du soleil le jour du printemps, le jour de l'automne.
Mais si je comprends bien, c'est une sorte de fleur tournesol qui tourne avec le soleil ou elle tourne ta maison ou pas?
Non.
Elle est fixe.
Il n'y a rien qui tourne.
Ouais.
En fait, on laisse tourner la Terre. Ah, moi, j'aime dire, la Terre, c'est comme... Il faut s'imaginer, c'est comme si elle était là en train de se pavaner devant le soleil. Une fois en haut, une fois en bas, une fois un peu plus, une fois un peu moins. Voilà, c'est cette histoire-là. Et cette histoire-là, je la raconte, si on veut, dans un volume. Et ce qui est incroyable, c'est qu'une fois que ce volume est construit, on se rend compte que, dès qu'on a trouvé la forme, on se rend compte que c'est un volume qui va être complètement ensoleillé pendant les 4 mois d'hiver et qui va être complètement à l'ombre pendant les 4 mois d'été.
Mais parle-moi de l'hiver en ce moment, tu veux dire qu'il fait chaud dans ta maison, sans chauffage ?
Hier, on avait droit au soleil, donc hier, il a fait vraiment chaud dans mon bâtiment, c'était fantastique. Donc aujourd'hui, il en reste une certaine quantité. C'est sûr que là, cette année, l'hiver est un peu dur, mais les hivers d'avant, comme l'année dernière, par exemple, je pouvais parler de 70% d'économie d'énergie par rapport à un besoin. Cet hiver, je ne vais pas arriver à cette qualité-là. Parce que à moins que maintenant, à partir de maintenant, on ait droit au soleil.
Et en fait, aujourd'hui, on voit que le vent souffle, Wifferhout, là, en ce moment. Est-ce que c'est étanche au vent, ça aussi?
Mais c'est une maison, hein. Un bâtiment, donc il est très bien isolé. Donc j'ai une énorme toiture, hein, parce qu'en fait, le bâtiment, c'est une grande verrière et une grande...
Ah, voilà, c'est ça que je veux savoir.
C'est une grande verrière et une grande toiture. Donc la verrière, elle est là pour... Elle est faite de façon à ce qu'elle reste à l'ombre tout l'été, mais accueille le soleil tout l'hiver. Et la toiture, c'est une toiture en fait que j'ai faite très épaisse, avec 40 cm de laine de bois en tant qu'isolant. Et donc après ça, avec une couverture extérieure, ce qui fait que c'est tout simplement isolé et étanche à tout.
Mais tu parles d'une verrière, c'est grand comment? Comme un immeuble de 3 étages ou c'est...
En fait, la verrière, elle fait 10 mètres de haut.
Attends, verrière, donc il faut mettre des rideaux? Tu mets des rideaux là-dessus, non?
On peut y mettre des rideaux. J'ai des clients qui mettent des rideaux. D'accord. Moi, je n'en ai pas mis parce que moi, je vis, comme dit, à la campagne avec les animaux dans les prés. Ça, je n'ai pas de voisin direct à ce niveau-là.
Et en fait, tu parles de la chaleur qui est, par exemple, l'hiver. Est-ce que la chaleur, elle monte dans les 3 étages comme une montgolfière qui monte dans les airs avec de l'air chaud? T'as chaud partout dans tout ce volume?
En fait, quand le soleil rayonne, c'est sûr qu'il fera un peu plus chaud en haut, mais voilà, c'est tout, quoi.
Mais c'est incroyable, cette maison. Et en fait, tu en as fait des petits, tu en as vendu des maisons comme ça, tu as eu la chance d'en faire ailleurs qu'à Causse-Villers?
En fait, l'idée, c'était qu'à partir du moment où on avait construit ce premier bâtiment, c'est qu'on le prenne en tant qu'archétype et qu'on se dise, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir traduire cette maison ailleurs? Quitte à pouvoir trouver comment on va pouvoir adapter cette idée, même dans une ville. Même... En fait, c'est simple. Tout lieu qui a droit au soleil en hiver peut recevoir ou accueillir ce type d'architecture.
Donc partout, le soleil est présent partout, quoi.
En fait, dans une ville, on n'a pas malheureusement pas le soleil partout. C'est pour ça, les Grecs, eux, ils avaient orienté leur ville pour profiter un maximum du soleil.
Oui, mais à l'époque, il y avait plus de place pour mettre une maison quelque part. Tu parles du temps des Grecs ou des pharaons. L'espace était vide. Là, aujourd'hui, on est serré comme dans une boîte de sardines. Je veux dire, les maisons sont les unes à côté des autres. Ouais,
mais les villes étaient déjà des villes. Donc, moi, je dirais qu'on arriverait très bien à concevoir des villes où on pourrait, bien sûr, pas à 100%, mais on pourrait, je dirais, à 60% à peu près, on pourrait profiter du soleil. Ça, c'est sûr qu'on pourrait y arriver.
Tu penses que ça, c'est quelque chose de très intéressant pour notre avenir? Parce qu'on voit très bien qu'en ce moment, quand on a les factures qui arrivent de chauffage et autres, ça devient tout et n'importe quoi. Est-ce que ça, avec cette maison que tu proposes, on pourrait économiser l'énergie et il y aurait moins de pollution? Ce serait l'avenir, ça?
En fait, l'idée de l'héliodôme, c'est que on est dans une forme géométrique. On va toujours construire une maison. on va toujours construire un bâtiment. Donc si ce bâtiment, on l'accorde à ce que la nature veut nous donner, on aura, dans la durée, dans toute la durée de vie du bâtiment, on pourra profiter des apports naturels en hiver et de l'ombre en été. Donc ça, c'est un acquis. Après, c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à couvrir 100% des besoins, mais par contre, cet acquis-là, c'est un acquis pour la durée du bâtiment. Alors que quand aujourd'hui, on repose, je dirais, tous les développements sur de la technologie, et la technologie, on sait qu'elle a une durée de vie très courte et qu'il faut toujours la remettre en question. Et donc, c'est là où j'essaye de faire comprendre qu'on pourrait s'accorder à la nature. Et pour moi, l'histoire d'avoir une architecture accordée à la nature, c'est que quelque part, bon, je dirais que là, c'est l'idéaliste qui parle, qui dit, voilà, on sait que l'architecture est toujours l'expression du mode de vie. Et si l'homme, demain, fait une architecture qu'il accorde à la nature, je crois qu'on aurait regagné notre place avec l'univers.
Ouais, c'est beau comme tu parles. Ouais. Et après, tu avais quelqu'un, tu avais un fan vraiment qui te suivait à la trace. C'était le Adrien Zeller qui aimait qui était fan de tes maisons et il voulait construire un monde nouveau avec toi.
Ah oui, mais Adrien Zeller, c'est là, c'est lui qui, au départ, quand l'Héliodôme tel qu'il est aujourd'hui à Cossulaire, lui, au départ, il voulait le mettre là où il y avait le poste de douane, avant Kehl.
Le pont de Kehl.
Avant le pont de Kehl. Ouais. Et puis, quand il venait me voir, il m'a dit, tu sais, on a une ville nouvelle à construire. Il faut qu'on construise une nouvelle ville, mais une ville nouvelle. Et on va l'accorder au soleil, on va l'accorder à la nature. Et quand il voyait, on était qu'aux prémices, aux premières idées, alors que là, maintenant, on est quand même beaucoup plus avancé. Et il était complètement engagé dans cette idée. Et il voulait vraiment qu'on réussisse ce pari-là. Lui, il me disait, mais si on arrive à faire ça, il faut que la terre entière se retourne. Strasbourg est la seule ville qui a la chance de nouvellement s'installer le long d'un fleuve. Il n'y en a pas une autre qui a cette chance-là. Et cette chance-là, elle est trop unique. Il faut qu'on l'utilise et il faut qu'on fasse... Mais lui voulait faire un nouveau centre-ville. Lui voulait créer... C'était fantastique, quoi. Il avait des projets merveilleux.
Ouais, il était incroyable, cet homme. L'homme, moi, je le voyais de temps en temps en reportage, c'était monsieur 10 000 volts qui courait dans tous les sens. Et c'est vraiment dommage qu'il soit parti dans les étoiles, parce que je pense, quand il nous regarde de là-haut, il doit être triste de se dire, bah, ça s'est pas fait, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois ce qu'ils ont fait là où il y avait le poste de douane, là, vers le pont de Kehl, ils ont fait une ville nouvelle. Mais je me demande ce qui est nouveau, quoi. C'est des cages à lapins qu'ils ont construit là-bas.
Ouais, c'est là où c'est dommage. Et c'est là où je peux juste raconter une histoire complètement incroyable.
Ouais.
Parce que quand on voit une maison comme l'Héliodôme, on se dit « Oui, mais ça, on n'aura pas le droit de le construire. » Et je peux juste raconter que j'ai accueilli les responsables des bâtiments de France et les responsables du Grand Est qui sont venus. Et puis, ils m'ont dit « Voilà, on est venus parce qu'on a eu une formation. Et on voulait nous faire comprendre ce que c'était qu'un bâtiment contemporain. » Et le formateur a pris l'Héliodôme pour nous montrer.
Waouh.
Et donc ça, c'est énorme quand on voit ce que c'est que les bâtiments de France, que la responsabilité qu'ils ont par rapport au patrimoine, et qui m'ont dit, oui, mais il faut aussi qu'on fasse un patrimoine contemporain.
Oui, exactement.
Et là, ils me disent, mais vous savez, toutes ces boîtes, c'est du 1940. Et c'est là où je dirais que j'ai rien contre ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est dommage qu'on n'essaye pas de...
Ouais. Et dis-moi juste pour terminer, comment c'est quand tu habites dans cette maison, dans cet héliodôme, tu passes des bonnes soirées, tu continues de rêver quand tu es dedans, tu es heureux dans cette maison?
On s'y sent tellement bien, c'est vraiment que du bonheur.
Et je te souhaite en fait que ça continue, que tu arrives à en construire et que tu arrives enfin à faire ce nouveau monde, ce serait vraiment génial. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé ce doux moment avec moi au micro. J'étais très heureux de parler avec toi et continue de rêver, hein, monsieur Géo Trouve-Tout.
Merci beaucoup, merci.
Mets-nous le petit générique de fin. Merci à Thomas.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser.